avec Benoît Marchal.
Bienvenue pour le 132e épisode de Déclencheur.
La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu.
Trois segments dans cet épisode, comme d'habitude, et notre sujet principal sera le droit d'auteur. Déclencheur accueille en effet Christophe Mazet de l'UPC, l'Union des photographes créateurs, qui défend particulièrement le droit d'auteur des photographes, pour nous guider sur ce sujet. Retenez dès à présent l'adresse du blog www.déclencheur.com. C'est là que vous pourrez vous abonner et on supporte de nombreuses méthodes d'abonnement, y compris l'abonnement iTunes, l'email et tous les agrégateurs RSS, y compris donc Google Reader, Netvibes, Wikio et tous les autres. Vous pourrez également y poster un commentaire et retrouver tous les liens de l'épisode. Vous pouvez écouter les épisodes directement sur le blog, mais il est plus facile de les copier sur un iPod, un baladeur MP3, un téléphone multimédia, de graver un CD pour les emporter avec vous et les écouter quand vous voulez, en voiture, en métro, en reportage, en jardinant, bref, partout où vous écoutez la radio. Premier segment donc. Avant l'interview, je vous présente quelques-uns des nouveaux articles disponibles sur www.déclencheur.com. D'abord, j'ai lancé l'idée il y a quelque temps de combiner nos expériences pour préparer un sujet sur les galeries photo en ligne. J'ai déjà récolté plusieurs conseils et je viens de publier un premier synopsis sur le sujet. Donc si vous avez une galerie photo en ligne, qu'il s'agisse de Flickr, Picasa, d'un script qui tourne sur votre serveur, peu importe, venez commenter ce synopsis pour le corriger, le compléter et faire en sorte qu'il soit aussi intéressant que possible. Si vous suivez Déclencheur, vous savez que depuis un moment, on se pose des questions sur l'avenir du projet. En finale, j'en ai conclu qu'on avait besoin d'aide et j'ai inscrit Déclencheur dans un incubateur culturel qui s'appelle Advancia et qui est situé en région parisienne. Pour suivre l'aventure pendant les 6 prochains mois, visitez le blog Carnet. Je rappelle, si vous êtes abonné au podcast par fil RSS, le blog Carnet, c'est un abonnement séparé. Sur ce même blog Carnet, j'ai posté de nombreuses autres notes, donc je ne vais pas vous les rapporter toutes, mais j'en épingle deux. D'abord, une note d'humeur qui se pose la question « Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à jour nos appareils photo ?» comme on le fait par exemple avec Photoshop, où chaque mise à jour nous apporte un lot d'améliorations. Donc vous lirez, j'ai posé la question chez Nikon, la réponse est intéressante. Ensuite, de l'info pratique, en réponse à une question d'un futur papa, Guillaume, qui me demande comment photographier en maternité, je rapporte simplement mon expérience, donc vous pouvez la compléter en laissant des commentaires. Vous le voyez, ça bouge énormément sur www.déclencheur.com, et ce n'est pas tout, parce qu'il y a également le Wiki News, dont je vous rappelle le principe. C'est une zone où vous pouvez éditer toutes les pages, et donc si vous êtes content de votre boîtier, si vous découvrez un logiciel, un livre, un site photo intéressant, eh bien venez partager cette expérience avec toute la communauté Déclencheur. C'est par exemple ce qu'ont fait Wadzar et Joseph, qui ont publié un compte-rendu du livre « Le langage de l'image » de René Bouillot, ou encore Tenchi56, Emmanuel et Photochien Michel, qui ont testé le papier Barry Tessil. Et il y a bien d'autres compte-rendus, d'autres tests, venez également participer. Également sur le Wiki News, un sujet d'actualité. Vous avez sans doute entendu parler, si vous visitez un petit peu les forums, les blogs photos, de la future loi américaine sur les œuvres orphelines. Cette loi, selon certains, menace de nous priver de certains de nos droits d'auteur, justement, donc c'est le thème de l'épisode. On a ouvert un sujet sur cette loi sur le Wiki News pour tenter de faire le point. Les liens pour tous ces articles se trouvent dans les notes de l'épisode, donc il suffit de visiter www.déclencheur.com pour y accéder rapidement. Deuxième segment où l'on parle de droits d'auteur. Donc je suis avec Christophe Mazet de l'Union des photographes créateurs, l'UPC. Mm-hmm. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Explique-nous un petit peu l'UPC, qu'est-ce que c'est ?
Donc l'UPC, c'est le groupement professionnel de la photographie des auteurs français. Mmh. Voilà. Effectivement, on aide les gens, je dirais une aide logistique, ça peut être surtout une aide fiscale, comment on se déclare photographe professionnel en France, sous quel statut juridique, etc. etc. Faut-il un numéro SIRET pour faire une note d'auteur ? C'est vrai que c'est pas simple et qu'il faut mieux se faire aider, entre guillemets, par des professionnels qui connaissent bien le sujet. Et derrière, ne pas faire de bêtises. Hein. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par peur de mal faire au niveau de la note d'auteur, entre autres, ne font pas de note d'auteur du tout. Et ça, c'est dommageable pour la profession. C'est la concurrence déloyale, etc. Donc, on a un souci d'information, d'aider les gens. Et il faut voir l'UPC comme vraiment un groupement professionnel où on a de l'information et où on échange. Ce n'est pas un syndicat. On est un groupement professionnel où on échange et surtout on défend les droits d'auteur. Je crois qu'on va en parler plus tard. Donc vraiment le gros du combat c'est ça. On en a fait d'autres hein, et gagné surtout, comme la taxe professionnelle par exemple. On nous montre aussi des photos, parce qu'avant tout, on est photographe. Moi, j'aime voir de belles images, ou voir des images tout court. Hein. Quelqu'un qui est très passionné, je sais pas, une fois j'ai vu un garçon qui me présentait des photos animalières, c'était très joli. Techniquement, c'était pas professionnel, mais il y avait une âme très intéressante, il y avait vraiment des matières à voir. L'UPC a une maison, c'est la maison des photographes, qu'on trouve 122 rue Vieille du Temple, à Paris. Quoi dire d'autre ? Il y a des personnes formidables qui travaillent là-bas en permanence, il faut en parler. Ce sont les salariés de l'UPC, ils sont au nombre de trois. Il y a Charlotte, Laurent et puis la juriste, dont je ne me souviens plus le prénom, elle me pardonnera. Et puis il y a autour d'eux beaucoup, beaucoup de bénévoles, entre autres à animer des discussions, des soirées, des réunions. J'en fais partie, il y en a d'autres qui en font partie aussi. Moi, je rencontre les gens professionnels ou non professionnels, ou étudiants, tous les premiers mardis de chaque mois. Mmh. Voilà, donc on se réunit là-bas, et les gens me montrent des photos, me posent des questions. Toutes les questions sont les bienvenues, et tout le monde peut venir, et c'est gratuit. C'est chaque premier mardi de chaque mois, à 18h, à la Maison des photographes. Vous avez aussi, si vous êtes adhérent à l'UPC, la possibilité de consulter gratuitement la juriste, de voir aussi les barèmes. Alors ça, on en parle très souvent. Les photographes veulent les fameux barèmes UPC pour savoir un peu comment facturer ou faire des devis par rapport à telle ou telle photographie et telle exploitation de la photographie. Les barèmes, on peut les consulter sur place. Par contre, il est très important, si on veut bénéficier du Vademecum, là, que j'ai avec moi, là, juste à côté de toi, il y a la grille de tous ces tarifs, comment on se déclare photographe professionnel, quelles sont les obligations du photographe professionnel, etc. etc. Ça, on l'a dans le Vademecum uniquement si on est adhérent à l'UPC.
Voilà. On va peut-être rentrer justement dans le vif du sujet, le droit d'auteur. Qu'est-ce que c'est au juste le droit d'auteur ? En quoi ça concerne un photographe ? Et quels photographes sont concernés par le droit d'auteur ?
Alors, tous les photographes sont concernés, j'ai envie de dire, même si juridiquement, parfois, on peut faire le distinguo entre les artistes photographes qui vont vendre une œuvre et les photographes publicitaires, etc. Mais toujours est-il qu'on emploie toujours ce terme de droit d'auteur, qui est en fait une rémunération par rapport à un travail intellectuel de créativité. Les droits d'auteur, c'est ce qui nous fait vivre, nous autres photographes. Mais effectivement, à partir du moment où on fait une photo, même si elle n'est pas diffusée derrière, on a un droit d'auteur sur cette photo. Mais pour répondre précisément et de façon très pragmatique à ta question, le droit d'auteur, c'est quoi ? Je suis photographe, je fais une photo, je la donne à un journal, il la publie. Dessus, je vais toucher des droits d'auteur. Voilà. C'est ma rémunération par rapport à mon travail intellectuel.
Comment est-ce qu'on acquiert ce droit d'auteur-là ? Est-ce qu'il faut le déclarer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Alors, juste une chose très simple pour les amateurs, il faut signer sa photographie. On fait un tirage, par exemple, noir et blanc, vous pouvez signer votre photographie et la numéroter. Sachant que les tirages dits artistiques, on doit les numéroter jusqu'à 30. Souvent, dans les galeries, on voit 1 sur 30, 3 sur 30. Ça veut dire qu'en fait, c'est le troisième tirage de la série qui en représente 30 dans le monde, ce qui donne la valeur au tirage. Par contre, pour les professionnels, c'est un peu plus complexe. Bien sûr qu'on doit signer ses photos, ça c'est une obligation, le fameux copyright, même si j'aime pas employer ce mot-là parce que c'est anglo-saxon, mais chez nous, c'est son nom, son prénom, ça peut être autre chose, son pseudo, etc. Mais il faut signer sa photographie. Et on va demander, par le biais de nos contrats que l'on signe avec les agences de publicité, de communication, les journaux, etc., ceux qui nous diffusent, on a un contrat avec eux, et on leur demande toujours d'avoir notre nom en bas de la photographie. Il y a beaucoup de journaux, actuellement de magazines malheureusement, qui ne le font pas toujours, qui oublient de mettre le nom du photographe. Et là encore, professionnellement parlant, il est important de dire à ces personnes-là, écoutez, juste à titre indicatif, faut pas non plus se fâcher, mais juste dire, voilà, je suis créateur de cette œuvre, de l'esprit, je veux que mon nom soit associé à ma photo. C'est un droit. Ça fait partie du droit d'auteur.
Si on ne la signe pas la photo ou si on n'a pas son nom associé, on renonce à son droit d'auteur ou c'est moins...
Non, on ne renonce pas à son droit d'auteur implicitement, je dirais. Mais le gros souci, c'est que si on ne demande pas une rectification ou si, quand on donne la photo au client ou à la personne qui va diffuser l'image, on peut s'exposer à de la contrefaçon. Bah, que quelqu'un mette son nom sous la photo, qui ne soit pas en fait le photographe de l'œuvre originale. Donc, ça, on s'expose à des petits soucis derrière, je dirais.
Ce qui amène beaucoup de gens à se frotter en final à ces problématiques, c'est d'avoir pour des raisons X, Y, Z, à un moment, on se retrouve avec une série d'images qui a une valeur marchande. On peut être contacté pour pouvoir exploiter une image, avoir réalisé une série d'images pour son employeur, etc. Comment est-ce qu'on gère ces aspects-là ?
Il faut se poser la question à qui va diffuser mes images. En fonction de ça, la réponse sera donnée. Si effectivement mes images doivent rester dans mon tiroir chez moi, il n'y a pas de diffusion, donc je ne me pose pas la question. Par contre, il est bien évident qu'à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à mes photos et qu'il me contacte en disant « j'ai vu, une amie m'a parlé, que vous connaissez chez vous, elle m'a dit qu'il y avait une très belle photo de danse, admettons. Ça m'intéresserait, j'ouvre une galerie bientôt, je voudrais l'exposer, éventuellement la vendre. » À partir de là, se pose la question de la vente, de l'exposition déjà. On en a parlé tout à l'heure avec la série limitée, 1 sur 30, etc. Quel statut juridique il me faut pour pouvoir vendre une photo ? Bien sûr qu'il faut déclarer ce que l'on gagne au fisc. En France, c'est comme ça.
Dans beaucoup de pays, en fait.
Voilà, alors juste une chose, il est toléré en France que jusqu'à 3000 euros de vente artistique, dite artistique, on ne peut ne pas les déclarer au fisc. Le statut juridique. Plusieurs solutions existent. On peut bien sûr, en tant que photographe, pour se déclarer professionnel et pour pas faire des factures, mais j'emploie le mot facture pour que tout le monde comprenne bien, puisque nous, on est auteur-photographe et dans ce cas-là, on fait des notes d'auteur. Pour se déclarer auteur-photographe, premier exemple, il faut se déclarer aux impôts, demander une P0, une déclaration de début d'activité, et la remplir. Deuxième chose, on peut se déclarer en tant que commerçant. Ceux qui ont des boutiques avec pignon sur rue sont commerçants. C'est un autre statut juridique. Troisième statut, artiste photographe. Il existe des gens qui, parce qu'ils vendent très ponctuellement, vont se déclarer artiste photographe. Ils vont peut-être faire partie de cette catégorie dont je parlais tout à l'heure, qui va faire moins de 3000 euros de chiffre d'affaires. Maintenant, il y a une autre catégorie, c'est les gens qui créent des sociétés. Actuellement, on parle beaucoup de SCI, Société Commerciale Individuelle. C'est des gens qui vont acheter un local par le biais de la SCI et derrière vont se louer souvent à eux-mêmes le local. Bon, après, c'est déductible d'impôts, etc., etc. Donc, c'est très financier. Après, c'est des montages financiers. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, il faut se déclarer. J'insiste vraiment là-dessus. C'est un des combats aussi de l'UPC qu'on mène. Il est important que la profession s'assainisse parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui s'improvisent photographes professionnels et qui font du tort à la profession. Un truc très concret.
En quoi est-ce qu'ils font du tort ?
Concrètement, on fait un casting, on cherche un modèle. On a beaucoup moins de personnes qui viennent qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas photographes professionnels, qui ont fait n'importe quoi pendant des castings, qui ont fait des faux castings, qui recherchaient autre chose. Après, on en parle dans les journaux et on dit, voilà, c'est un photographe professionnel. Donc ça nuit à l'image de marque.
On a beaucoup d'auditeurs qui ont un compte sur Flickr, on a beaucoup d'auditeurs qui ont un photoblog, qui ont ce genre de choses.
Ouais.
Une question qui revient de temps en temps, c'est tiens, quand un éditeur me contacte en me disant « je voudrais bien utiliser votre photo pour faire un bouquin, pour illustrer un sujet, etc. » Qu'est-ce qu'il faut répondre ?
Bon, la bonne démarche à suivre. Moi, je pars du principe, il faut un peu de bon sens, quoi. Tout travail mérite salaire. À partir de là, première question à poser à la personne qui me contacte, vous êtes éditeur, ok. Vous allez faire quoi de mes photos ? Vous allez les vendre ? Oui, monsieur, je vais les vendre, c'est pour faire un ouvrage, je vais faire une compilation, je vais mettre plein de photos, comme ça, et puis je le vendrai. Donc, je vais gagner de l'argent. Le but, quand même, je suppose que s'il édite, s'il va chez un imprimeur, c'est cher, ça coûte de l'argent, c'est un budget. Donc, derrière, il veut s'y retrouver. Il n'est pas là pour faire du sponsoring. Donc, il va gagner de l'argent. À partir de là, moi, si j'avais des photos qui l'intéressaient, je lui dis, mais monsieur, si vous gagnez de l'argent, moi, je veux en gagner aussi. On partage le gâteau. Si tel n'est pas le cas, ça ne m'intéresse pas. Les photos, je les garde pour moi. C'est simple comme raisonnement, c'est du bon sens, mais je crois que vraiment, il faut que les photographes se posent la question en disant, se faire publier gratuitement, est-ce une bonne chose ? J'invite vraiment tout le monde à une réflexion. On peut être amateur. Moi, j'ai commencé comme amateur. J'étais dans un photoclub. J'ai vendu ma première photo. Je l'ai peut-être vendue à l'époque 50 francs, mais je l'ai vendue. Je ne l'ai pas donné gratuitement. Jamais j'ai donné une de mes photos gratuitement. On peut gagner de l'argent avec la photographie. Donc pourquoi, quand quelqu'un me propose d'être publié, pourquoi je donnerais ma photo ? Je peux parler aussi des offices de tourisme qui font des jeux concours. Tout le monde peut participer, bien sûr. Celui qui gagne, admettons, un séjour à la montagne dans une station de ski que je n'aime pas. Et derrière, on va lui dire, mais en contrepartie, il faut signer un contrat où tu laisses tous tes droits d'auteur et la photo, on en fait ce qu'on veut. Même si on fait une 4x3 dans le métro à Paris, c'est pas ton problème, tu toucheras rien là-dessus. Bah, ces personnes-là sont un peu flouées dans le sens où elles connaissent pas, elles sont pas informées et on leur prend leurs photos. Je sais qu'un office de tourisme qui négocie au gagnant une chambre d'hôtel pendant un week-end, même dans un hôtel 4 étoiles, hein, en montagne, pour, admettons, deux personnes, un couple, ça va leur coûter en gros 10 fois moins cher, au minimum. Et ça, je le sais de source sûre, que de payer le photographe.
Parce qu'ils ont la chambre gratos.
En plus. C'est bien pour ça que normalement, on arriverait peut-être à 5-6 fois en proportion, mais là, on arrive à 10, parce qu'en plus, ils ont des contrats avec les hôtels, etc. Bon. Et c'est pour ça que l'UPC, entre autres, a essayé et a réussi certaines choses par rapport aux offices du tourisme ou autres conseils généraux pour faire prendre conscience à ces gens-là que c'était de la concurrence déloyale par rapport aux photographes professionnels qui vivaient de la photo. Pour être concret, ils payent leur loyer, ils mangent grâce à ces photos d'illustration pour les offices du tourisme, pour les conseils généraux, etc., etc.
Le deuxième élément auquel on est parfois confronté, c'est « tiens, je travaille dans une association, tiens, je propose de faire les photos pour rendre service, etc. »
Moi, par rapport au principe, je n'ai rien contre. Personnellement, j'ai offert une photo, une fois, pour les droits de la femme, une agence, une association là sur Paris. Ils ont fait un visuel avec, mais je leur ai offert avec certaines conditions derrière, même s'il n'y a pas eu un retour financier par rapport à ça, parce que je voulais participer à cette cause, j'ai fait un don, j'ai quand même dit à la personne que j'avais en face de moi, ça sera pour telle diffusion, et je veux que ça soit carré, je veux vraiment qu'il n'y ait pas de problème de diffusion. Parce que très souvent, que se passe-t-il dans la réalité? C'est quand on est gentil et qu'on offre quelque chose à quelqu'un, le quelqu'un en question, souvent, va se dire à un moment, bah là, il y a moyen éventuellement de faire un peu d'argent avec cette photo que j'ai eue gratuitement, entre guillemets. Bah, ça va être derrière de faire du business avec. Et j'insiste bien là-dessus, ça n'empêche pas de faire un contrat avec la personne, même si une rémunération n'est pas possible, s'il y a 0 € à toucher à la clé. Mais néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir un cadre juridique posé, en disant, voilà, la diffusion, c'est pourquoi, c'est pour qui, comment, où, etc., etc. Et sur combien de temps? Sur 2 mois? Sur 3 mois? Ça, il faut le dire. Il faut que ça soit écrit quelque part. Je vais m'exprimer plus clairement, point par point. Le droit d'auteur. Bon, ça, c'est basique. Tout le monde a compris. Deuxième chose. En découlent plusieurs utilisations possibles et qui peuvent être, par exemple, premier point, limitées d'un point de vue géographique. Je vends une photo, j'ai un contrat qui stipule que cette photo sera diffusée uniquement dans le nord de la France. Deuxième chose, ça peut être d'un point de vue de durée, dans le temps. On peut dire que ça sera diffusé uniquement dans le Nord pendant 3 mois. Troisième point, le mode de diffusion. Est-ce que c'est un magazine? Est-ce que c'est une affiche? Donc ça aussi, il faut le stipuler. La diffusion rentre en compte aussi le nombre d'exemplaires. Si par exemple je publie dans un magazine, il est évident que le tarif calculé de ma note d'auteur ne sera pas le même si c'est un magazine qui tire à 30 000 exemplaires qu'un magazine qui tire à 300 000. Ça c'est évident, ce n'est pas le même tarif. Quatrième point, l'exclusivité pour la diffusion de cette image uniquement pour telle agence, etc. ou tel magazine. Ça peut être aussi l'exclusivité dans le sens où cette photo, je ne dois pas la transmettre ou la vendre à d'autres personnes.
Donc, par exemple, tu l'as vendue à McDonald's, tu t'engages à ce qu'elle ne sera pas utilisée par un des concurrents de McDonald's, voilà, pour une campagne aussi.
Voilà. On peut rajouter après un cinquième article éventuellement, c'est aussi de dire qu'on autorise, mais de façon très ponctuelle, mais pour le lancement par exemple de la campagne publicitaire, via Internet, de publier, de diffuser cette image. Voilà. Donc là, ça peut être un cinquième article.
On peut prendre quelques exemples typiques.
Lancement d'une campagne publicitaire, par exemple. Ouais. Moi, je l'ai faite pour, je nommerai pas la marque, mais pour un sac à main féminin. Donc, on m'a dit, ça sera Île-de-France, premier point. Deuxième point, pour une durée de 1 mois. Troisième point, uniquement sur les supports CBS. Ouais, c'est les panneaux publicitaires, il y a Deco, CBS, etc. Uniquement CBS. Quatrième point, pour le lancement du sac à main, il y aura sur les Champs-Élysées un show, une soirée, etc. et pendant une semaine, avant et une semaine après, diffusion de spots avec cette photo sur Internet, sur notre site donc du fabricant. En fonction de ça, bien sûr, le tarif final est calculé. Il est possible, et c'est l'utilité, et c'est ça qui est intéressant avec les droits d'auteur, il est possible effectivement de faire plusieurs campagnes publicitaires avec la même photo. On a fait un contrat pour un certain type d'utilisation de diffusion. Ça, c'est un premier contrat. Si par contre, ce client-là réutilise ma photographie pour une autre diffusion, il est évident que ça fait partie d'un nouveau contrat qu'il faut mettre en place, qu'il faut négocier de nouveau. D'accord ? Donc, toujours faire des contrats avec chaque type d'utilisation, même si c'est la même photo. Alors donc, pour revenir sur l'exemple du sac à main, concrètement, j'ai vendu un certain type de contrat de diffusion pour la France, pour une période de 2 mois, etc. Si, 6 mois après, la même personne, le même client, toujours pour le même sac, me redemande de faire la même opération, mais maintenant, c'est plus la France, il vise la Belgique, point de vue commercial. Rebelote, un nouveau contrat est établi. Les deux parties signent, et toujours avec ces clauses juridiques limitant dans le temps la région, la zone géographique, le nombre de publications, etc. etc.
Toi, ça te fait une deuxième vente.
Donc, deuxième contrat, donc une deuxième vente. Un contrat égale une vente.
Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que ça se met en place, ce genre de choses?
Ça se met en place très simplement parce qu'actuellement, on ne laisse pas trop le choix aux photographes professionnels de négocier un peu tout ça. Dans les agences, il y a des tarifs. Dans les magazines, c'est pareil. À titre indicatif, on arrive dans un magazine, on vend des images. On nous dit, voilà, tu vas toucher. Si c'est une demi-page, c'est tant. Si c'est un quart de page, c'est tant. Si c'est etc., etc. Il y a déjà des tableaux récapitulatifs avec tous les tarifs en fonction de la diffusion et de l'impression de notre photo. Voilà. Donc on n'a pas trop le choix par rapport à ça, puisque tout le monde fait la même chose. Donc soit on rentre dans ce système-là et on travaille, soit on en sort effectivement et c'est plus difficile pour travailler. Maintenant, ça veut dire aussi qu'on peut négocier certaines choses. Là encore, je fais référence au contrat du photographe professionnel dans le cadre de la diffusion de son image. Il y a certaines choses qu'on peut encore négocier, heureusement. Et l'UPC travaille aussi là-dessus dans ce sens-là, en informant le plus possible ce diffuseur, les médias en général. Mais de dire que, ok, leur méthode de travail, c'est ça, il y a une grille qui est planifiée, bon, ok. Mais derrière, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Il y a un cadre. Et vraiment, il faut vraiment être très rigoureux, très précis, et demander, toujours négocier. Moi je dis juste aux clients, je leur dis je voudrais pas faire d'impair, voilà, je voudrais qu'on parle de ça parce que dans votre contrat je le vois pas. Mettre le doigt sur certaines choses qui me paraissent moi un peu bizarres parfois. Parfois, et même très souvent, on me comprend et on me dit ok, bon, on va rectifier cet article-là du contrat. Il faut en discuter, il faut pas avoir peur de discuter en disant mais si je discute trop, on va me trouver être trop pinailleur et puis derrière je vais pas avoir de travail. C'est pas forcément vrai. Et même, on est très souvent surpris parce qu'en face de nous, on a quand même des êtres humains. Et heureusement, encore, je dirais souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent effectivement, je comprends, voilà.
Pour clôturer sur le thème du droit d'auteur, est-ce qu'on peut parler des banques d'images? Je sais que ça crée des tensions par rapport au métier de photographe. D'abord, peut-être expliquer un peu ce que c'est qu'une banque d'images et puis dire...
Très simplement, une banque d'images, ça porte bien son nom, hein. C'est une grosse banque, hein. On met plein d'images dedans, dans les tiroirs, dans les dossiers, etc. Et après, cette banque d'images va se charger de la diffusion auprès d'annonceurs, de médias différents, etc.
A priori, c'est plutôt bien.
Alors, c'est très bien, c'est une très très bonne idée, hein. Ça marche très très bien dans l'idée. Ça a très bien marché financièrement pour les photographes, je dirais encore une dizaine d'années. Maintenant, on est sur la pente vraiment descendante. Ça devient même catastrophique. Pour te donner une idée, hein, vraiment, puisque je l'ai vécu, moi je suis photographe professionnel depuis 1992. En 92, j'étais à peine sorti de l'école photo que je vendais déjà des images dans une banque d'images. Ça me rapportait sans rien faire, donc j'avais fait mes photos, je partais en voyage ou faire une commande pour un industriel ou autre. Au bord de la mer, j'en profitais pour faire des paysages, de l'illustration pure. Et puis, je revenais à Paris, je déposais mes photos dans la banque d'images. Bien sûr, il y avait un contrat, bien sûr, il y avait le copyright, etc. etc. Alors ça, c'est très important, hein, de savoir que pour que ça fonctionne, moi, j'avais déposé 10 000 images. Mmh. En deçà, dans une banque d'images, si on dépose 500 images, c'est pas la peine. on ne vendra rien. Il faut au moins, je dirais, 5-6 000 images minimum. C'est le minimum. À l'époque, donc en 92, ça me rapportait en euros, on va parler en euros, sur une année, avec 10 000 images, ça me rapportait de l'ordre de 7-8 000 euros par an. Voilà. Maintenant, je dois avoir un stock de 60-70 000 images. Bien sûr que je renouvelle, c'est pas toujours les mêmes, même s'il y a une partie qui effectivement sont à peu près les mêmes. Hein. Sur 70 000 images, sur l'année, si ça me rapporte 500 euros, c'est le bout du monde. Donc ça, c'est pour déjà planter le décor. Réfléchissez donc avant de déposer vos images dans une banque d'images, même si l'idée est très très bonne, qu'elle a fait ses preuves pendant des années et des années. Hein. C'est très bien pour se faire diffuser, surtout quand on commence son activité. Mais il ne faut pas compter à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, là-dessus pour en vivre exclusivement. Ce n'est pas possible.
Mais écoute, Christophe, je te remercie d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça.
De rien.
Et donc, si les gens veulent aller plus loin, bah, la bonne adresse, en final, c'est l'UPC.
C'est l'UPC, hein, la bonne adresse. Vous avez tous les renseignements pratiques, fiscaux, etc. sur le site de l'UPC. Vous avez la maison des photographes qui vous attend aussi les bras ouverts. J'y serai aussi, hein, je vous rappelle, tous les premiers mardis de chaque mois.
Il faut être adhérent pour y participer?
Non, pour les mardis, c'est ouvert à tout le monde, aussi bien les étudiants que les gens établis, les gens qui débutent, les gens qui se posent des questions sur le monde de la photographie. Encore une fois, je répète, le mot d'ordre, c'est vraiment l'information, l'information, l'information. C'est celle qui est garante de notre déontologie et surtout d'un point de vue commercial. Hein, on en souffre aujourd'hui. Les photographes professionnels, il y a des gens qui, du jour au lendemain, sont photographes professionnels, sans formation aucune, qui n'ont pas de numéro Siret et qui font de la concurrence déloyale dans tous les pays européens actuellement, que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France. Il y a vraiment un gros souci par rapport à ces gens-là. Et on ne le dit pas suffisamment, et pour une fois qu'un média a la gentillesse justement de nous écouter, et je me fais un peu porte-parole là, de mes confrères photographes, on en souffre hein, de tout ça, et c'est une réalité, voilà.
Bah écoute, merci.
Merci beaucoup.
À une prochaine fois,
merci.
Troisième segment avec vos commentaires et vos réactions. Des messages d'encouragement et des réactions positives de Sylvain Bouy, Fabien, Adrien, Alec F, Transep, Franca, SBH, Bink, Yannick, Le Hamster, Magali M et Tay. Merci à vous. Didier et Tommy demandent que j'affiche la durée des épisodes sur le blog. C'est le cas déjà si vous utilisez un baladeur MP3, la plupart affichent la durée de l'épisode. C'est vrai que ce n'est pas le cas sur le blog. Ça va venir dès qu'on aura migré sur la nouvelle plateforme, donc je vous demande encore un petit peu de patience. Sur l'épisode présentant l'utilisation d'autofocus avec Olympus, globalement, je note que l'épisode vous a bien plu, sauf peut-être à Franck Doyen qui se dit qu'avec tous ces automatismes, exposition automatique, mise au point automatique, détection de visage, l'usage du réflexe ne se justifie plus vraiment. Alors Franck, on est souvent d'accord, mais là, j'aurais tendance à répondre, comme l'a fait d'ailleurs Didier également dans les commentaires, le fabricant met des fonctions dans le boîtier. C'est à nous de décider quand elles sont utiles, sachant, bah, comme le disait Gunnar dans l'épisode, en finale, qu'on en utilisera rarement plus de 30%. Je suis d'accord avec toi, Franck, que se cacher derrière les automatismes, c'est dommage, mais à l'inverse, savoir quand ils sont là, quelles sont leurs limites, pouvoir les activer au bon moment et leur déléguer certaines tâches qui permettent de se concentrer sur d'autres tâches, eh bien, ça peut être précieux. Mescal suggère qu'on ajoute des commentaires audio sur le blog. En fait, c'est possible depuis le début, depuis 2006. Mais sur tout ce temps-là, on n'a reçu qu'un seul commentaire. Donc depuis Paris, puisque Mescal est à Paris, il faut composer le 08 92 23 03 22 et former le code de service 8208. Pour les autres régions, vous allez sur le blog et vous trouverez les numéros de téléphone. Attention, c'est à chaque fois un numéro de téléphone surtaxé. Guillaume F. sera bientôt papa. Il voudrait des conseils pour la prise de vue en maternité. La réponse était trop longue pour la traiter maintenant, mais j'ai répondu dans deux notes sur le bloc carnet. Kevin a ajouté quelques conseils et d'autres ont également ajouté des conseils sur le bloc carnet, donc je vous invite à aller lire ces deux notes et éventuellement à partager votre propre expérience. Lightroom Reg demande un épisode sur le portrait. Bonne nouvelle, l'épisode il est enregistré. La conversation était passionnante. Maintenant, il faudra le temps de le monter, de trouver un moment pour le diffuser, mais ça arrive, un peu de patience. Un épisode pour lesquels j'ai trouvé les commentaires tout à fait réjouissants, c'est l'épisode sur les accessoires photo enregistré avec Peter. J'ai adoré lire vos réponses qui proposent plein de bonnes idées sur les accessoires que vous utilisez. Je ne vais pas toutes les reprendre ici, ce serait trop long, mais allez lire, c'est intéressant. Et puis, il y a des idées qu'on peut prendre pour soi-même. D'Antoine Meignier, d'Adrien, de Franck Doyen, de Logan77, de TG, de Helpel et de Tay. Un accessoire dont je note la popularité croissante, c'est le GPS.
Helpl demande quel logiciel mettre sur son PDA. Alors, il y en a beaucoup, ça va dépendre du PDA. En faisant une petite recherche sur Google, tu trouveras de l'information. Mais je vais demander à Peter de venir poster les références du logiciel qu'il utilise. Et assure-toi de prendre un PDA qui est capable de lire des MP3 pour voir emporter déclencheur aussi, évidemment. Sur l'épisode formation photo, Jean-Baptiste signale un nouveau logiciel qui s'appelle Pictomio et une méthode mathématique pour retrouver une image. Deux informations très intéressantes. Jean-Baptiste, je t'invite à te rendre sur le Wikinews et à nous laisser un compte-rendu. Il est vraiment là pour traiter ce type de commentaires. Mr. Saul parle en code à Christophe. Personne n'a rien compris, mais c'est pas grave, ça ne s'adressait pas à nous. Vincent F. insiste sur la réalité de terrain et l'aspect commercial quand on s'installe comme photographe, qui sont des choses qui sont ignorées dans le sujet. C'est tout à fait exact, mais je rappelle que l'idée d'un mini, c'est de répondre de façon pointue à une question précise. Ici, en l'occurrence, la question, c'était quelle étude photo choisir, sachant qu'a priori on a le bac, et qu'on se demande comment s'orienter dans le monde de la photo. Et je crois que Christophe a voulu répondre à vraiment à cette question-là. Derrière comment on s'installe photographe, c'est encore un tout autre sujet. Nicolas B. cherche les disques CD, DVD, MAM, M que j'ai recommandés comme disques d'archivage en août 2006. Alors malheureusement, on ne les trouve plus, la boîte qui les fabriquait a fait faillite. Maxime insiste en réponse sur l'utilité d'être multi-support et de sauvegarder peut-être sur support électronique, mais également sur disque dur. Pour ma part, je trouve que les disques optiques deviennent de plus en plus chers par rapport notamment au disque dur dont le prix ne cesse de baisser. Et je pense que quand j'aurai fini le stock de disques optiques que j'ai ici, je vais peut-être arrêter d'archiver dessus et je vais tourner avec un triplé de disques durs. Alors c'est important d'avoir plusieurs disques durs, trois de façon à en avoir un de travail, deux d'archives. Les deux d'archives ne sont jamais connectés en même temps sur la machine pour que, si un accident arrive, vous ayez toujours un disque récupérable. Sur l'épisode « L'avenir du noir et blanc », Benji et Edwin Van de Viver trouvent que Bernard Perrin exagère et que certaines de ses remarques sur la qualité du numérique ne sont pas tout à fait justifiées. Ce qui m'avait frappé dans le sujet et ce qui m'a décidé à le diffuser, c'est cette idée que le noir et blanc argentique est une esthétique en soi et semble se maintenir comme tel sur le marché. C'est vraiment pour ça qu'on essaie de diffuser ce sujet-là. Sur le sujet de la conservation des fichiers photos, cette interview avec un de mes clients, Michel Lessour, Transé propose comme élément de réponse les logiciels libres. Sans vouloir couper les cheveux en quatre, et c'est vrai que c'est des matières assez techniques et assez complexes, je crois que plutôt que l'ouverture du logiciel, ce qui est plein de qualités, c'est surtout le format de fichier, l'ouverture du format de fichier qui est important. Parce que c'est ça qui garantit la pérennité de nos données. Parce que par exemple, un logiciel libre dont on a le code source, oui, théoriquement, on peut toujours le recompiler, mais ça implique qu'on trouve toujours des compilateurs capables de recompiler du vieux code. Et croyez-moi, si vous prenez du code C qui a 20 ans et que vous essayez de le passer dans un compilateur moderne, vous avez beaucoup de chances que ça ne passe pas. Donc, plus que le code source, pour moi, c'est l'ouverture du format de fichier, la documentation du format de fichier qui est importante. Guillaume, quant à lui, exprime son pessimisme sur la conservation de nos images à l'avenir et dit que notre civilisation risque d'être celle qui laissera le moins d'informations aux générations futures. Quant à Nicolas T, il nous propose une première explication du zone système, c'est trop long pour le reprendre in extenso ici, mais allez lire le commentaire, vous verrez, c'est instructif. Sur les 24 heures du Mans, je note avec beaucoup de plaisir que le sujet vous a plu, parce que c'est un sujet où on a vraiment mouillé notre chemise pour le produire. Max insiste sur le fait que, comme on le dit d'ailleurs, les 24 heures, c'est idéal parce que ça permet de s'exercer toute la journée, de revenir au même endroit à des heures différentes, de regarder ses photos à tête reposée et de se dire « tiens, je pourrais le refaire autrement ». Il y a beaucoup de chances que la voiture soit toujours en piste et donc que vous ayez une seconde chance pour refaire l'image. Quant à Damien S, il aurait voulu voir plus d'images, je les rajoute au fur et à mesure sur Flickr, donc de temps en temps, on passe faire un petit tour ou tu me mets en contact, comme ça tu les verras automatiquement. Sur des épisodes plus anciens, un film détective voudrait que l'on revienne sur les profils de couleurs parce que tout ne se passe pas exactement comme il l'a compris et comme il le voulait. La question est longue, assez technique, je la note. C'est un sujet qu'on a prévu de couvrir encore à l'avenir, donc on essaiera d'y répondre à ce moment-là. Juste très vite, un élément de réponse parce qu'il y a une question que Film Détective pose à laquelle la réponse est très simple. Caméra RAW propose un choix entre 8 et 16 bits dans le bas de l'écran quand on ouvre un fichier RAW. Si 8 ou 16 bits ne correspondent pas à la profondeur du fichier, qui lui va être 12 ou 14 bits en fonction de l'appareil photo, mais bien à celle du fichier Photoshop que Caméra RAW va générer. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à Déclencheur pour être certain de ne rater aucun épisode à l'avenir. L'abonnement est gratuit. S'abonner à un podcast signifie simplement que vous êtes averti de la sortie des nouveaux épisodes et tous les renseignements pour ce faire sont sur le blog. Je vous rappelle également que Déclencheur vous propose des nouveautés tous les jours avec le Wikinews.
grâce auquel vous pouvez partager votre expérience du matériel, des livres, des accessoires, des logiciels et des sites photos, mais également avec le bloc carnet qui vous ouvre les coulisses de Déclencheur. À bientôt donc sur www.déclencheur.com.